Alors, les évangiles ne sont pas toujours faciles à écouter. Au fil des siècles, on a voulu en faire une morale sécurisante. Mais les paroles de Jésus nous forcent à sortir de notre confort. Les béatitudes de Luc nous dérangent. Nous aimons bien celles de Matthieu, qui déclare heureux un certain nombre de situations ou de comportements différents. Et les béatitudes de Luc, en fait, n'en reprennent que quatre. Et Luc, eh bien, il rajoute les malheur à vous. Et il y a une grande symétrie. Il y en a quatre d'un côté, quatre de l'autre. Par exemple, il dit « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Et un peu plus loin, « Malheur à vous les riches, car vous recevrez votre consolation. » Donc, il y a une grande symétrie. On n'aime pas tellement entendre « Malheur à vous », surtout quand on se reconnaît. Et on sait que la vie est difficile et on essaye de faire ce qu'on peut pour vivre le mieux possible. Et pour être honnête, eh bien, notre vision du bonheur ne correspond pas à celle qu'en donne Jésus, parce que nous avons effectivement besoin d'une certaine sécurité matérielle, affective, d'avoir une place dans la société où l'on est reconnu. Et quand on entend ce texte, on se demande « Mais où suis-je ? » De quelle catégorie je fais partie? Que dois-je faire? Alors c'est vrai que si je parle de moi, je ne peux pas dire que je suis pauvre. Aujourd'hui, je n'ai pas de deuil, je ne pleure pas. Je n'ai pas faim, matériellement. Et je ne suis pas persécutée. Personnellement, je suis plutôt de l'autre côté, déclarée malheureuse par Jésus. Les riches, ceux qui sont repus, ceux qui rient et peut-être ceux dont on dit du bien. Alors on est obligé de réfléchir avec ce texte. Et on va d'abord regarder le contexte dans lequel il a été écrit. Il a été écrit il y a quand même 2000 ans et donc ça vaut la peine de se poser la question. Et il suffit de regarder le texte lui-même. Quelle est la partie la plus développée dans le texte lui-même? Eh bien, c'est au milieu. Ça dure deux longs versets quand Luc dit, quand, par la parole de Jésus, Jésus dit « Heureux êtes-vous quand les humains vous haïssent, quand ils vous excluent, vous insultent et proscrivent votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'humain. » Et cela continue avec la nécessité de se réjouir et même de sauter de joie, ce qui est impensable pour nous évidemment. Mais ces deux versets longs nous font comprendre que le temps où Luc écrit, c'est un temps de persécution. Les chrétiens, ben, on a vu, donc Jésus a été mis sur la croix, et ensuite dans les Actes des apôtres, donc les disciples qui suivent Jésus et qui ont vu Jésus ressuscité et qui veulent proclamer la bonne nouvelle, eh bien ils sont aussi persécutés, ils sont emprisonnés, et on les pourchasse, on va pourchasser l'apôtre Paul, et beaucoup vont mourir. Alors, ces phrases-là sont vraiment prises comme un encouragement pour ces personnes qui sont persécutées. Et on pourrait presque les reprendre. Là, je voyais dans le journal cette semaine qu'il y avait un procès de l'attentat de Nice, je crois, dans une église. Voilà, on peut même le reprendre aujourd'hui. Il y en a qui sont contre les chrétiens. Alors, l'autre chose que j'aimerais préciser dans le texte, c'est le mot « malheur ». Il faut aller voir le grec pour savoir quel est le mot qui est traduit par malheur. Et en grec, le mot, c'est « ouai ». Donc, en fait, c'est « hélas ». Ce n'est pas une malédiction. Jésus ne dit pas « parce que vous êtes riche, alors vous êtes maudit ». Non, c'est la constatation d'un malheur. C'est « hélas, vous les riches ». C'est une situation qui peut apporter du malheur. Les mots « heureux » ou « malheureux » c'est pas un programme, c'est pas programmatique. Ils n'induisent pas un bonheur ou un malheur automatiquement. Mais ils invitent à voir les choses autrement. Ce que la société recherche et met en avant, ce n'est pas le chemin qui nous apportera un bonheur durable. Il y a une autre dimension à chercher. Et cette autre dimension, elle est souvent oubliée quand on est riche, quand on a tout ce qu'il faut pour vivre, que la satisfaction de soi-même nous suffit. Jésus nous invite à ouvrir les yeux sur une certaine réalité de la vie. Jésus ne rejette pas les riches sous prétexte qu'ils sont riches. Et d'ailleurs, on peut regarder l'auteur, Luc, en tout cas cet évangile est attribué à Luc, parce que Luc ne se nomme pas dans l'introduction que Luc fait de son évangile, il ne dit pas que c'est lui Luc, mais en tout cas, par des recoupements, on en a déduit que c'était lui, que c'était un médecin, que c'était quelqu'un d'éduqué et que son grec est très bien écrit. Donc c'est quelqu'un vraiment de bien éduqué. Et il se présente comme historien de la vie de Jésus. Et dans les Actes des Apôtres, dont il est aussi l'auteur, on pourrait dire que c'est le tome 2 de l'évangile de Luc, eh bien on sent sa préoccupation de partager les biens, de mettre tout en commun. Et sans doute Luc connaît particulièrement bien les travers de plusieurs comportements, notamment celui de la richesse. Et il veut nous alerter. Alors il équilibre les déclarations de bonheur et les déclarations donc de malheur, de hélas, hélas à vous les riches, hélas vous qui êtes repus maintenant. Et en fait, cette manière d'écrire est un peu différente de Matthieu parce qu'elle nous impacte directement. Heureux vous les pauvres, malheur à vous les riches. Donc en fait, il y a ce vous en plus. Et puis Luc insiste vraiment sur le temps d'aujourd'hui. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Donc il y a une prise de conscience de notre réalité d'aujourd'hui. Mais donc c'est aujourd'hui aussi qu'on peut prendre conscience des choses. Alors que dire de la richesse ? La richesse est relative, aussi bien au niveau personnel que de la société. Quelqu'un de pauvre dans nos sociétés riches sera plus riche qu'un pauvre dans une société pauvre. Et ce que j'ai à disposition dans mon pays, comme l'eau courante dans ma maison ou des chaussures aux pieds, sera considéré, moi je considère ça normal, mais c'est un signe de richesse dans beaucoup d'autres pays. Alors pourquoi dénigrer autant la richesse ? Dans quel malheur elle risque de nous entraîner ? Tout d'abord, les situations, quand on est, ces situations d'être comblées, eh bien, nous cachent le manque fondamental de la vie. La vie porte un manque fondamental. Et la richesse nous donne l'illusion qu'on peut combler ce manque. Et l'illusion que nous ne pouvons pas exister sans cette richesse. Et du coup, elle nous appelle à une course en avant. Plus j'en ai, eh bien, plus j'en veux. Nous sommes dans une société de consommation à outrance et maintenant tout est à notre portée avec notre ordinateur sur la sphère d'Internet. De quoi suis-je repu ? Des choses matérielles ? Du temps que je passe devant les écrans, devant les réseaux sociaux ? La richesse en fait apporte un pouvoir, quel que soit le niveau. Si je possède un ordinateur et ma carte bleue, eh bien j'ai accès au marché mondial que je trouve sur Internet. Et en cela, on est dans une course toujours plus grande. Si je veux comprendre ce « hélas » de Jésus, je peux observer les dégâts de la richesse. Par exemple, il y a des entreprises qui licencient leurs meilleurs ouvriers ou techniciens pour donner plus d'argent aux actionnaires. Un autre exemple, c'est de voir les pays riches piller les ressources des pays pauvres. Et c'est pour ça que c'est difficile pour nous, pays riches, d'entendre ces béatitudes. Cette semaine, notre collègue pasteur, donc au consistoire, on a des rencontres entre pasteurs, et notre collègue qui s'appelle Lendo Makonga, il est au Kremlin-Bicêtre, il vient du Congo. Et il a partagé avec nous un livre qu'il a écrit il y a quelques années sur les injustices. Déjà annoncé par le prophète Amos, qui est dans notre Ancien Testament. Et en particulier l'effet des injustices causées par les pays riches qui ont besoin de minerais qu'on appelle les terres rares, comme le coltan, dont le sol du Congo est riche. Ce minerai entre dans la composition de nos téléphones portables, des batteries, etc. Et j'en parle parce que ça nous concerne directement aujourd'hui dans la guerre qui sévit entre le Congo et le Rwanda. En fait, le Rwanda finance la lutte armée depuis 30 ans pour récupérer le coltan du Congo, gagner plus d'argent en l'exportant dans le monde entier. Comme par hasard, c'est le Rwanda qui est le plus grand exportateur de coltan dans le monde, alors qu'il n'est pas producteur. Évidemment, nos pays riches s'en font les complices. Et il faut le savoir, ça. C'est évidemment cette guerre dont on parle aujourd'hui avec le M23 et puis tout ce qu'il y a autour. Je crois qu'en tant que pays riche, il faut en avoir conscience. Et puis, à une autre échelle, il peut arriver de voir des riches malheureux parce qu'il leur manque toujours quelque chose. La richesse est matérielle et elle ne comblera jamais le vide spirituel, affectif. Elle ne comblera pas la fragilité de la vie. Et elle me donne l'illusion que j'ai un certain pouvoir, mais au final, ce pouvoir est très limité, provisoire. On le voit quand on tombe malade, on le voit quand... Voilà, enfin, vous le savez, toutes ces situations de fragilité de la vie. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Alors, cette phrase est quand même aussi scandaleuse. Est-ce vraiment enviable d'être pauvre ? Et Luc, contrairement au texte de Matthieu, place la pauvreté matérielle. Matthieu, il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Mais Luc, il dit « La pauvreté, vous qui êtes pauvres ». C'est une situation humiliante d'être pauvre. Le manque est là, dans le quotidien. Et l'on subit aussi cette humiliation dans le regard des autres. Alors pourquoi Jésus les programme heureux, les proclame heureux ? Eh bien, cette déclaration est un accueil inconditionnel de Jésus et une promesse. Ce n'est pas une exhortation à devenir victime, mais c'est de savoir comment vivre dans ces situations sans désespérer, en restant dans la présence du Seigneur qui ne tient pas compte des situations sociales pour nous aimer. C'est comme si Jésus disait... Votre condition humaine ne s'arrêtera pas à votre richesse, à votre pauvreté, à vos pleurs, à vos rires, à votre humiliation, à votre joie. Mais en Dieu, vous pouvez les traverser et les vivre autrement. En Dieu, vous pouvez recevoir une joie que personne ne peut vous donner et qui vous rendra heureux même si votre situation sociale est difficile. Par contre, pour nous qui sommes peut-être du côté qui ne manque pas, eh bien ces béatitudes sont une exhortation à lutter contre les injustices provoquées par la richesse, par l'indifférence de ceux qui sont comblés de tout et qui ont l'impression de ne manquer de rien. C'est une exhortation à lutter contre les moqueries, contre les exclusions de toutes sortes, qu'elles soient dues à la religion, aux origines, aux métiers, à la situation maritale ou familiale. Alors oui, soyons reconnaissants de ce que nous avons, prenons-en conscience et accueillons ceux qui n'ont pas autant que nous. Oui, Jésus nous bouscule avec nos paroles, avec ses paroles. C'est sans doute pour nous réveiller et pour nous mettre en route afin de vivre la radicalité de son commandement d'amour. Amen.